Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Nous allons ouvrir un texte dans notre Bible Les familiers de l'Écriture sainte, normalement, ne devraient pas y avoir de problème. Mais de toute façon, c'est en lisant la Bible et en la commentant, c'est pas pour avoir des problèmes. Naturellement. Alors, nous allons faire deux lectures en préambule. C'est dans le Nouveau Testament, au chapitre 21, dans Jean. Jean, chapitre 21, verset 15. Qui sera, en effet, le thème principal. Et nous allons le nourrir avec d'autres passages de l'Écriture sainte. Je répète, Jean, chapitre 21, verset 15. C'est après la résurrection de Jésus. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Joseph, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur. » « Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit, « Pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ?» Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit, « Pour la troisième fois, m'aimes-tu ?» Il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Voilà pour notre première lecture, et nous allons lire maintenant dans 2 Corinthiens un passage qui va commenter un message de 2 Corinthiens au chapitre 5. Et au verset 16, c'est Paul qui parle et qui s'exprime ainsi. « Dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. » Et il parle de Jésus. « Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Alors, nous avons dans ce passage, et nous allons pouvoir finalement y apporter quelques commentaires intéressants, parce que quelquefois, et surtout la deuxième lecture, c'est vrai que quelquefois on peut s'y perdre dans tout cela. On peut s'y perdre. Alors, nous voyons que Paul exprime une chose. Vous vous souvenez que Paul était un juif orthodoxe, pharisien, qui était véritablement un homme extrêmement zélé par rapport à la foi, eh bien, judaïque. Et Il était prêt à tous les coups, même faire mourir les détracteurs de l'évangile de Jésus-Christ. Alors il dira, mais maintenant, c'est plus la même chose pour moi, parce qu'il s'est passé quelque chose dans ma vie. Il s'est passé une révolution dans mon existence. Vous connaissez le chemin de Damas? Oui, c'est extraordinaire. Il est tombé de son cheval par un éblouissement extraordinaire. Ça, c'est pas tous les jours que ça nous arrive, On peut l'être par le soleil à certaines saisons, mais c'était véritablement une manifestation là, céleste. Et c'est ce qu'on a appelé la conversion de Paul. Alors il le dira, dès maintenant, nous ne connaissons plus des hommes ou Jésus en tant qu'homme. Nous avons connu Christ selon la chair, mais nous ne le connaissons plus de cette manière. C'est-à-dire que, pour Paul, Jésus n'était pas seulement le Messie attendu, mais c'était le Messie arrivé. Et nous voyons que, quelque part, maintenant, pour le juif Paul, eh bien, c'est non seulement le Messie réel, mais c'est aussi son Sauveur, son Seigneur et son Rédempteur. Nous ne le connaissons plus selon la chair. Et si nous voulons peut-être ajouter ceci, il y a dans notre monde deux façons. Je parle du christianisme pour l'instant. Mais il y a deux façons de connaître Jésus, connaître Dieu. Soit d'une manière religieuse. Et vous savez que Jésus n'a pas été tendre avec les religions de son temps. Ou alors nous le connaissons d'une manière spirituelle. C'est pas nous qui avons découvert Dieu, c'est Dieu qui nous a découvert et qui nous a pris en main. Ça, c'est quelque chose d'important. Alors il dira, mais nous sommes de nouvelles créatures. Nous sommes une nouvelle création. C'est Dieu qui nous a créés une première fois, naturellement, mais il nous a recréés dans le domaine, dans la dimension de l'âme et dans la dimension de l'esprit. De l'âme, religieux, et de l'esprit. C'est une autre affaire, naturellement. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est pourquoi Paul est devenu l'apôtre Paul. Il n'était plus Saul de Tarse. Cet homme que nous connaissons dans le début des livres, du livre des Actes. Alors ceci dit, il y a un principe que je voudrais mettre devant vous. C'est le principe de la nouvelle naissance. Vous ne vous souvenez pas de votre première naissance, hein ? Vous n'avez pas de photo. Enfin, si, il y en a, mais les parents. Mais pas vous. Hein, vous ne savez pas comment les choses... Non, vous êtes né naturellement. Et puis, il y a une autre naissance qui est la naissance intérieure et qui nous fait rentrer dans une découverte d'un autre monde. Et non plus le monde de fracas comme il est aujourd'hui, de guerre, de cruauté, de mensonges, de toutes sortes de choses impures. Mais nous sommes rentrés dans une dimension à l'exemple de Jésus, comme Jésus est, et nous sommes en formation. La vie, c'est une école, naturellement, mais pas une école pour acquérir ce qui est tout à fait normal et respectable. L'apprentissage d'un métier, la science, enfin toutes sortes de choses. Mais d'apprendre notre destinée future, c'est-à-dire le ciel. On ne parle plus du royaume de Dieu, on parle du royaume des cieux, là, à ce moment-là. Et c'est formidable. Moi, je crois que une grande partie d'entre nous, nous avons fait cette expérience. Et nous voyons que nous avons été appelés à le dire. Nous sommes des témoins, pas de Jéhovah, mais des témoins. Hein, ça, c'est sûr. Des témoins de Jésus-Christ vivant. Comme les siècles ont été traversés, finalement, eh bien, là, 20 siècles de christianisme, ce sont des millions et des millions de personnes qui, l'ayant dit, l'ayant confessé, ou n'ont rien dit du tout, vivent une vie chrétienne de l'esprit. Ah oui. Et indifféremment de toutes nos appellations que nous avons données, les étiquettes que nous avons mises sur nos vestes et tout ça. Non, moi je pense que c'est ça. Nous le connaissons maintenant, non plus selon la chair, mais selon l'esprit. Cette nouvelle naissance nous apprend ce que la Bible dit, une vie nouvelle, ce qu'on appelle la régénération. Hein ? L'homme dans la chair est... On pourrait dire, mais avec une supériorité incroyable, mais nous avons des comportements d'animal. Voilà, dans toutes nos... Et puis c'est pas péjoratif, mais c'est vrai. Mais l'autre dimension, c'est une régénération de ce que nous sommes en tant qu'homme, dans notre humanité. La régénération du croyant dans son être entier, le corps, l'âme et l'esprit. Et oui, régénération. Ça change notre mentalité. Le buveur ne boit plus, le menteur ne ment plus, hein, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Et puis toutes les facéties de la nature humaine eh bien, sont mutées. C'est une mutation quelque part. Ce n'est pas pour ça que nous sommes des saints, et ce n'est pas pour ça que nous sommes meilleurs que les autres. Mais néanmoins, nous avons une un principe qui est né à l'intérieur de nous-mêmes, du bien vouloir, du bon vouloir, parce que nous connaissons cette parole de Paul aussi, il dira, parce qu'il a créé en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Pas mon bon plaisir à moi, et mon bon plaisir sera de faire le plaisir de Dieu, et c'est une véritable réjouissance, véritablement. Hein. Les choses ne sont pas faites par contrainte, par la loi, par l'obligation, mais elles sont faites par l'amour qui rend toute chose facile, ouais, libre, qui nous réjouit. Alors, mentalité, la vie sociale aussi en est affectée, les talents et les dons naturels, parce que on peut recevoir naturellement des talents et des dons naturels, mais ils sont redirigés pour la gloire de Dieu. Quand on voit ce que peut être la musique, je ne juge pas, mais quand on peut voir aussi ce que l'on peut dire, la musique et les cantiques comme nous avons chanté, qui exaltent le nom de Jésus-Christ, on a des cantiques qui sont formidables. Ah ouais! Alors, tout ça, c'est... On pourrait parler aussi des facultés intellectuelles, et puis bien d'autres choses. Je donnerai un exemple. L'amour, quand il est régénéré, pas l'amour bestial, pas l'amour brutal, pas l'amour qui écrase, pas l'amour qui étouffe, non, mais l'amour régénéré. Parce qu'il faut bien le souligner, dans notre monde, il y a amour et amour. Hein. Et c'est le même nom, c'est le même mot, si vous voulez. Mais dans les faits, ce n'est pas tout à fait la même chose. Hein. L'amour naturel, donnons quelques références, émane de l'âme humaine. C'est ce que nous connaissons en tant qu'homme. Hein. Être amoureux. Mais ce n'est pas le tout d'être amoureux. Il faut aimer tout jusqu'au bout. Parce que nous avons fait des promesses. Absolument. Et puis il y a l'amour de l'esprit, qui, celui-là ne vient pas de la terre, mais il vient d'en haut. Et il nous permet d'aimer comme Jésus a aimé, comme Dieu a aimé le monde. Il y a un terme qui est un terme grec, hein, du mot amour, hein, et ce mot amour se décline en trois dimensions, trois déclinaisons du mot amour. Il y a l'amour éros, ça va vous rappeler certainement des choses, parce qu'il est dans, notre, nous on est de nature grecque dans notre langue, hein, grec et latine, mais grec. L'amour philéim, en grec, philéa, si vous voulez, c'est plus simple. Et puis il y a l'amour que vous connaissez, parce qu'on en parle nous, entre nous, hein, l'amour agapé, voilà. Alors on va essayer de faire un petit peu la présentation. Philéim, philéa, ça veut dire l'amitié. C'est la raison de ce que nous pouvons dire. Alors maintenant, on va commencer par l'amour éros. C'est une effusion sentimentale. On le comprend. Romantique. Ouais, il y a eu des belles choses qui ont été écrites ou dites, ou jouées en musique, par exemple. C'est un amour sensuel. C'est un amour qui est animé par l'âme elle-même. Et nous voyons que cet amour-là, il peut être éros et il peut être religieux aussi. Quand on voit finalement, eh bien, là, les fausses adorations, quand on voit le détournement de ce que Jésus condamnera dans Matthieu au chapitre 25, dans finalement, eh bien, les juifs orthodoxes, les israélites, qui avait complètement idéalisé les choses, etc., où il y avait même, pour l'adoration de Dieu, il y avait même quelquefois de la prostitution. À Corinthe, c'était ça. Il faut bien le dire, hein. Tout un mélange. Et aujourd'hui, peut-être, on n'en est pas loin. Mais en tous les cas, c'est véritablement eh bien, une explication. L'âme humaine, l'âme même religieuse, hein. Tomber fou de statues, tomber fou d'idoles, tomber fou de toutes sortes de choses. Et les gens sont complètement aveuglés avec ça. Hein. Alors, on a ça. C'est l'élan de l'âme vers le divin. Oui, vers le divin. Quel divin, hein. Là, dans la Bible, on parle de Dieu, on parle de Jésus-Christ. Puis rien d'autre, hein. Ça s'arrête là, naturellement. Alors, vers le divin ou autre, aspiration de caractère spirituel. Il y a le religieux, il y a le spirituel, tout se mélange. Et Nous voyons qu'il y a donc quelque chose à discerner. L'amour charnel, c'est Eros, c'est l'amour charnel. C'est l'amour de l'homme, de la femme, dans les deux genres, hein, bien sûr. Hein. L'amour charnel, expression, c'est une pulsion du moi qui a véritablement du mal à se maîtriser. C'est pour ça qu'il y a tant de choses qui nous scandalisent aujourd'hui, hein, sur les enfants, sur les innocents, sur finalement des gens qui sont abusés d'une manière ou d'une autre. Et on va loin, hein. Je peux vous dire que c'est véritablement la préoccupation des pouvoirs publics pour que... Mais ça a toujours été, il ne faut pas se faire d'illusion. Et dans les guerres, et j'en passe et je ne dirai pas certains mots naturellement, hein, bien sûr, mais vous les dînez. Donc l'amour charnel, expression d'une pulsion du moi, et nous voyons que cet amour-là, Eros, redoute la souffrance et il recherche la satisfaction par l'égoïsme. Voilà, je prends, je me sers, puis voilà. Et notre égoïsme, c'est la souffrance ou la jouissance. Ma jouissance pour moi, et peut-être parfois la jouissance pour l'autre, pour les autres. Ce n'est pas gratuit, ni même désintéressé, quand on voit le flot, l'océan d'argent que tout ça véhicule et de toutes sortes de dimensions qui, quelque part, servent d'appui. Nous allons parler maintenant de philéa. Philéim, c'est l'amitié, je l'ai dit tout à l'heure, hein. C'est un sentiment d'attachement entre deux individus. C'est autre chose, hein. C'est pas la chair. C'est la chair quand même, mais c'est l'intermédiaire entre les trois, là. Vous allez voir. Deux individus inclinés sont réciproques, affinité, sympathie. Il y a trois types de philéim, d'amitié. L'amitié utile et l'amitié par intérêt. Toi, tu me plais. Tu me plais parce que, bon, il y a peut-être quelque chose à tirer de toi. Hein. Il y a, en effet, l'amitié qui repose sur le plaisir. Ça revient un petit peu à ce que nous disions, le plaisir, la satisfaction. Et puis également, l'amitié qui a pour but, parce que là, c'est quand même, ça s'approche des frontières du troisième, la vision d'une noble vertu et le bien charnel. Voilà. Donc, trois points particuliers, l'utile et l'intérêt, deuxième point, le plaisir pour soi, et puis également la vertu et l'aspiration au bien. C'est un amour qui s'exprime par les affections, ce deuxième point, et où il y a affection réciproque et de même nature que l'éros, c'est l'âme, c'est toujours l'âme. Chez l'homme, l'humain, c'est l'âme, voilà, hein, il y a le corps, mais il y a l'âme. Et c'est ce que dira Jésus dans ce passage, quand il dira ceci dans Matthieu chapitre 5 et verset 46, il dira dans le sermon sur la montagne, « Mais si vous aimez que ceux qui vous aiment, est-ce que vous croyez que vous faites quelque chose d'extraordinaire ? Vous êtes en train de, là, bouleverser peut-être quelque chose, mais vous bouleversez vous-même parce que aimer quelqu'un, c'est normal. » Voilà. « Si vous aimez que ceux qui, quelque part, vous aime, alors vous êtes vraiment limité et impuissant pour aimer vos ennemis. Parce que c'est ça, hein ? Cet amour, agapé, doit pouvoir atteindre ses frontières d'aimer ses ennemis. D'ailleurs, Jésus n'en parle que de ça. Aimez vos amis, naturellement, mais croyez pas que vous êtes un cador et que, finalement, hein, vous êtes un champion de l'amour, pas du tout. Et puis maintenant, il y a l'amour agapé. L'amour agapé, c'est un amour divin. Je parlais de l'humain, un amour divin qui n'est pas le résultat du cœur naturel. Il faut le pousser, hein, parce que il est très, très lent, très somnole, on peut dire. Hein. Mais c'est de l'action, provient de l'action du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vient et qui me donne, là, cette aspiration. Je l'ai dit et je le répète. Je le dis quelquefois dans les mariages, parce que j'aime bien qu'ils entendent certaines choses, les mariés. Je dis, mais être amoureux est une chose. C'est une chose. Mais aimer, continuer à aimer, à travers tout ce que peut présenter la vie, ça, il faut le faire. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui s'arrêtent en route. Quelquefois, on parle de coup de foudre. On parle de... Bon, c'est bien, mais pourquoi on aime? Pour la beauté? Pour... Bien sûr, c'est bien. Mais pour... Là, eh bien, quelles sont les raisons qui nous font que nous tombons amoureux? Parce qu'il y a des affinités dans ceci et cela. Oui, ben c'est autre chose. C'est un miracle divin que d'aimer de l'amour agapé. Parce que la Bible nous le renseigne, elle nous dit « L'amour de Dieu, l'amour du Saint-Esprit a été répandu dans vos cœurs par le Saint-Esprit. » C'est Dieu qui a fait de nos cœurs un réceptacle pour que nous soyons, eh bien là, transformés, changés, et nous le sommes normalement, hein, et que là, il puisse déposer l'amour qui est en Dieu dans notre cœur. Ah oui. Et vous allez voir qu'il y a quand même une différence. C'est le fruit du Saint-Esprit. Dans Galates, chapitre 5 et verset 24, il nous est parlé du fruit de l'Esprit. Et ça commence, c'est le premier. C'est le principal. C'est le principal. C'est le summum. Et c'est le véritable amour qui donne ou se donne, qui déborde et qui atteint et qui n'attend rien en retour. Ouais, c'est le sacrifice de soi. C'est véritablement, eh bien, se donner soi-même et qui n'attend rien en retour. Sacrifice de soi. C'est la passion pour l'être aimé, pour lui-même, pour ce qu'il est, et c'est réellement l'amour, cet amour-là, c'est aimer comme Dieu nous aime. Et si nous avons besoin d'un modèle, eh bien regardons à la vie de Jésus jusqu'à la croix. Il a été jusqu'au bout, hein, pour nous sauver, pour véritablement, eh bien là, nous donner le salut dont il a payé le grand prix en mourant sur la croix du calvaire. Et pour qu'il soit réellement amour, c'est aimer à la manière dont Dieu nous a aimés. Dieu est esprit, et il nous est dit qu'il faut que ceux qui l'adorent, ceux qui l'aiment en quelque sorte, l'aiment ou l'adorent en esprit, en vérité. Dixit, Jean, naturellement. Cet amour agapé est l'essence du sermon sur la montagne, je l'ai dit précisément. Ça, c'est les fondamentaux, hein, finalement, de la Bible. Aimez vos ennemis, dira Jésus. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous font du mal, on peut le dire comme ça. Priez pour ceux qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Ouais. On a souvent identifié les croyants comme avec des noms catholiques, protestants, etc., orthodoxes, et je parle pour le christianisme. Mais pour un chrétien qui est né de nouveau, mais il n'appartient pas finalement à une dénomination dont il se réclame, avec des dogmes, avec des commandements, avec toutes sortes de structures. Mais il est véritablement fils de Dieu, fils et fille de Dieu, tout simplement. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Voici ces contrefaçons de ce amour agapé, ces contradictions et ces détournements. C'est intéressant de voir, parce que c'est le monde. Hein. De toute façon, on n'invente rien, il suffit de regarder autour de nous et ça va être vite compris. Hein. Si le monde parle et chante beaucoup d'amour, il en va autrement dans sa réalisation concrète. Les chansons d'amour, c'est beau, hein? Ouais, c'est bien. Voilà. Voilà, tout simplement. Non, je ne regrette rien, mais je peux vous le chanter parce que je ne peux plus chanter. Hein? Ne me quitte pas, bon voilà, vous connaissez un peu tout ça, hein, ces déclinaisons. Hein. Oui, le monde, que ce soit dans le cinéma, que ce soit dans la chanson, que ce soit dans les opéras, enfin bon, tout ce que vous voulez de représentation, il y a toujours de l'amour. Et c'est souvent dramatique aussi, hein. Il y a l'amour et puis le drame, hein, parce qu'il faut bien que ça picote un petit peu de temps en temps, voilà. Alors, quand on juge le monde, on parle d'amour, mais est-ce que l'amour est réellement ce qui se pratique sur la terre? Ah, moi je suis malade en ce moment. Enfin, malade façon de parler, hein, je peux encore. Mais quand je vois ce que je vois tous les jours à la télé, parmi les médias, ce que je peux lire dans la presse, etc., etc., je me dis, mais Seigneur, moi je dis souvent à Myriam, je lui dis, tu sais, on est plus on vieillit, hein, parce que je commence à prendre de l'âge, mais plus on vieillit, plus on s'aperçoit que c'est pas le paradis, hein. C'est pas l'Éden, hein, sur Terre aujourd'hui, hein. Mais ça n'a jamais été d'ailleurs, c'est l'enfer. Quand on voit qu'il y a 80 ans, un enfer de feu, et puis on est prêt peut-être à refaire les mêmes choses, avec peut-être pas les mêmes moyens, hein. Ça ne viendra pas de la Terre, mais ça viendra du ciel. Avec tous les armements que nous avons, c'est du feu. Hein. Vous savez, Noé a commencé avec de l'eau, lui. Puis maintenant, on va finir avec le feu, c'est ce que la Bible nous dit, hein, quoi qu'il en soit. Mais oui, tout ça, c'est véritablement... Hein. Jésus nous dit, d'une manière très claire, pour bien aimer, la source, c'est d'aimer Dieu. Seigneur, apprends-moi à t'aimer. Apprends-moi à réfréner, à te demander que tu m'aides, parce que j'en suis pas capable. Je suis si faible devant les tentations, devant ce qui m'est propre à moi, et mes tentations ne sont peut-être pas les mêmes que les autres, et les autres n'ont pas les mêmes tentations que moi, etc., etc. Et c'est une bagarre, c'est une lutte. Quand je veux faire le bien, dit Paul, c'est le mal que je fais. Et je répugne ça, parce que je voudrais que ça soit autrement. C'est déjà une forme de repentance, hein, quelque part, hein, qui peut nous amener beaucoup plus loin dans un affranchissement. Alors, pour bien aimer, la source est d'aimer Dieu, à commencer par aimer la vérité. Attendez, par aimer ce qu'il nous dit, parce que c'est sa vérité. Ah, la vérité. On a eu un énorme plaisir, hein, quand nous avons lu la Bible pour la première fois. Moi, j'avais une vingtaine d'années, même plus jeune. Ouais. Et ça a été quelque chose de formidable. J'ai dit, c'est ça ce qu'il me faut pour ma vie. Je suis pas étonnant que je suis devenu un ecclésiastique. Moi, ça me fait toujours rire qu'aujourd'hui, à cœur, Dieu m'a mis à cœur depuis 40 et quelques années de le dire aux autres. Mais pas par prosélytisme. Pas pour dire, écoutez, si vous ne croyez pas à ça, vous allez être perdu. Hein. Ça regarde chacun, hein, de toute façon. Mais je le dis, pour bien qu'il y ait quelque chose, finalement, eh bien, qui puisse passer. Alors, Jésus dit ceci, cette parole, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. » Gardez la parole de Dieu, non pas d'une manière tellement obligée, d'une façon où c'est une obligation, un devoir, mais gardez ma parole par amour. Et là, à ce moment-là, c'est tout à fait beaucoup plus facile que de devoir, eh bien, se coincer dans des exigences parce que ça a été dit, mais de pouvoir dire « change mon cœur » et à ce moment-là, je le ferai avec plaisir, je le ferai avec bonheur. Ouais. Gardez ma parole, ça c'est quelque chose, gardez, aimez la vérité. Demeurez dans mon amour. Or, ses commandements, sa parole, ça s'appelle l'évangile. Vous savez ce que ça veut dire en grec, l'évangile? Bonne nouvelle. C'est pas une mauvaise. C'est pas une mauvaise nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Tout commence, eh bien, par là. Et c'est bien que nous puissions en parler ce matin. Jésus aurait-il dit, écoutez, hein, moi c'est une paraphrase, hein, « Allez par tout le monde, il l'a dit, construisez des hôpitaux, faites du bien, faites pratiquer la charité, tout simplement, pour soulager les souffrances humaines. » Jésus n'a jamais dit ça. Il a dit « Faites du bien », mais il ne nous a pas demandé de réformer le monde en pensant qu'en réformant le monde si bien, le monde allait changer. Le monde ne s'arrange pas, il se dégrade de plus en plus. Et pourtant, les moyens que nous avons aujourd'hui par rapport à un siècle, par rapport à ce qui s'est passé dans le temps, hein, naturellement. Et pourtant, les hommes, vraiment, ont pu manifester cet amour philéim en soignant, en faisant des hôpitaux, en utilisant la science, etc. Il y a eu des efforts considérables. Moi, je ne suis pas là pour le nier. Hein. Voilà. Mais une chose qui est certaine, tout ça, c'est vraiment, et ça reste humain. Non, avant tout, et d'abord, Jésus a dit, prêchez l'évangile. Faites connaître la bonne nouvelle du message de Dieu, de l'amour de Dieu, sur quoi tout repose de la bienfaisance, du bien répandu. C'est ça la vérité. C'est ça. On peut cependant posséder un grand et sincère amour de l'âme, tout en méprisant et haïssant cette vérité de Dieu. Il y a des gens qui font du bien autour de nous. Ben, Dieu, c'est rien pour eux. Sa vérité, ils s'en moquent. Finalement, eh bien, tout ce que la religion a décrit et a modifié, vous savez, les gens ne veulent plus en entendre parler. On est dans un siècle de déchristianisation. Maintenant, on a tenu tellement les gens qu'aujourd'hui, ils ne veulent plus en entendre parler. Surtout qu'avec les exemples qui ont été donnés. Ça, c'est certain que ça change un peu les choses. Vérité de Dieu et de son amour. Si l'on regarde l'amour de Jésus, ça, c'est vraiment la leçon qu'il nous faut. L'amour, source d'inspiration essentielle, d'où tout procède. Certes, l'amour, selon la chair, c'est-à-dire philéim, prétend aimer Dieu en aimant ses créatures, mais tout en niant la vérité selon l'esprit. C'est ça le problème. On peut toujours se donner le manteau de la religion. Mais comment Jésus a traité les pharisiens de son temps? Il leur a dit, je ne sais pas si je peux me permettre, race de vipères, bande d'hypocrites. Et il les a drôlement arrosés. Et c'est comme ça que finalement ils se sont tournés vers Jésus pour le crucifier. Débarrassons-nous de cet homme qui est en train de jeter là, qui donne un coup de pied dans notre fourmilière. Voilà. Prétendent aimer Dieu en aimant ses créatures, mais en refusant l'esprit. Alors, les œuvres sociales, oui, moi je suis pour. Les œuvres humanitaires, c'est vrai, parce que nous avons un service, nous, dans notre catégorie d'église, où nous savons, nous sommes sur dans plusieurs continents, et on fait, bon, moi je suis pasteur, mais il y en a qui sont missionnaires. Les missionnaires avec toutes sortes de... un éventail très large. C'est d'accord. La philanthropie, ok. L'altruisme, même religieux, où l'évangile y est totalement évacué. À un moment donné, moi j'avais un collègue là sur Saint-Nazaire qui me disait dernièrement, puisque il est le responsable de l'aumônerie de l'hôpital d'Angers, il me dit, mais c'est terrible. Nous, nos milieux qui étaient avant tout, et des milieux d'évangélisation, et qui faisaient du bien, qui faisaient de l'humanisme. Il m'a dit, maintenant, vous pouvez toujours prêcher, mais on ne veut pas que vous prêchiez aux gens qui viennent se nourrir dans notre... Vous allez me dire, c'est deux choses différentes. Mais quand même, on est loin, finalement, de l'armée du salut. Est-ce que vous savez ce qu'ils ont fait? En Angleterre, au 19e siècle, c'est incroyable. Incroyable travail, parce qu'ils ne donnaient pas seulement de la nourriture humaine, mais ils donnaient aussi de la nourriture pour le cœur, l'âme. Ça, c'est quelque chose. Alors... où est le salut des âmes? Est-ce qu'on peut faire beaucoup de choses en bien? Mais si véritablement, et ça c'est pas la peine de forcer les gens pour que véritablement ils croient ce que vous dites. Non, c'est qu'en leur donnant ce qu'ils ont besoin pour le corps, eh bien peut-être de reconnaissance, ils se tourneront vers Dieu et ils verront qu'il y a quand même encore des gens de la part de Dieu qui peuvent leur faire du bien. Et l'armée du salut, il y a eu des milliers et des milliers et des milliers de gens qui se sont convertis parce qu'on leur donnait quand même une assiette pour qu'ils ne restent pas l'estomac vide. On leur donnait les deux, estomac plein et un cœur rempli d'une vie nouvelle. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu, c'est pas l'œuvre des hommes, tout simplement. Cette sorte d'amour humanisme est prêt à sacrifier la vérité que Dieu aime pour sauver, tout simplement, bien ces hommes, au profit d'actions louables, certes, en apparence, pleines d'amour, mais où le fondamental n'existe pas. Alors, dans nos démarches, nous faisons attention à ce que nous faisons. Il y a des gens qui ont donné leur vie, il y a des gens qui ont véritablement fait beaucoup de choses. Mais il faut que ça soit toujours accompagné de sentir que ces gens que l'on aide, eh bien, on les aime. On les aime, tout simplement. Peut-on aimer sans... référence à Dieu, le parfait exemple, c'est-à-dire Jésus-Christ et la croix. Ça, il faut toujours revenir à ça, de toute manière. Dans cela, il va être... Qui va être glorifié? C'est les hommes qui vont se glorifier. Vous savez, sur les plaques de nos rues, partout dans le monde entier, Il est marqué « Bienfaiteur, bienfaiteur, bienfaiteur ». Oui. Moi, j'espère qu'ils ne me laisseront pas une plaque dans une rue. Non, non. Mais qui est glorifié ? C'est l'homme. On va se souvenir de l'homme. Mais l'homme aussi, qu'est-ce qu'il était ? Oui. Qu'est-ce qui l'a motivé ? Si c'est pour être glorifié par nos semblables, c'est pas forcément... Je voudrais simplement terminer maintenant, parce qu'il y a tellement de choses à dire. C'est la Bible elle-même toute seule. Hein. Que d'entorses où le Dieu d'amour parfait est déshonoré et où ses créatures sont glorifiées en lieu et place. Oui, en lieu et place. La conclusion serait la suivante. Dieu attend que nous le servions, mais que ce soit l'expression en esprit, en vérité, et non d'une manière charnelle, de notre amour pour lui. Sans amour de Dieu, sans cette passion qui vient d'en haut, émanant du Saint-Esprit, nos bonnes œuvres, oui, je dis bien nos bonnes œuvres parce que c'est un mot qui est utilisé, resteront au niveau de la terre, stériles et vaines. Il faut qu'il y ait véritablement cette association. Et on a fait ce décrochage entre Dieu, l'humanité, avec ces trois dimensions, Eros, Philéim, et puis Agapé, tout simplement. Toutes ces choses sont utiles au monde. Et heureusement qu'elles existent, naturellement. Hein. Mais elles ne rempliront jamais le but suprême du salut pour l'éternité dans l'amour à jamais. Je voudrais simplement terminer par cette parole que l'on a dans 1 Corinthiens. Et là, ça va être tout simplement la conclusion pertinente qui est... Vous savez, il est dit ceci. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. Vous connaissez ? C'est par la grâce. C'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. C'est notre confiance. Confiance pas en bas, mais confiance en haut. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres. Car nous sommes son ouvrage, nous qui avons été sauvés, appelés, sauvés, convertis à Jésus-Christ, régénérés. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres. Ce n'est pas à nous d'inventer des œuvres. Ce n'est pas à nous d'inventer toutes sortes de choses, mais c'est Dieu qui va nous inspirer. C'est l'inspiration de l'Esprit, ça, en disant « je vais faire ceci, je vais faire cela ». Parce que si Dieu nous envoie à faire quelque chose, il va nous donner, comme un patron donne des outils hein, et des instruments à celui qu'il mandate, eh bien Dieu va nous donner ce qui est nécessaire. C'est différent des uns et des autres, hein, que Dieu a préparé d'avance pour que nous les pratiquions. Et en ce qui concerne eh bien là, 1 Corinthiens au chapitre, que je retrouve ma petite ligne, voilà, il est dit ceci, quand je parlerai, c'est Paul qui dit cela, c'est la conclusion, quand Paul nous rappelle, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, vous connaissez hein, ce que ça veut dire, parler en langue, la Pentecôte, hein. Si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, du bronze, vous savez, oui, du bronze, ça sonne creux, c'est tout, hein. Ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, c'est-à-dire les dons spirituels, la science de tous les mystères et dans ta connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, l'amour dont nous avons parlé, l'amour de Dieu, je ne suis rien. Et quand je distribuerai, on en a parlé aussi de la bienfaisance, tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Et la dernière chose, maintenant. Donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Et la plus grande de toutes les choses, c'est l'amour. L'amour de Dieu. L'amour en Dieu, l'amour que Dieu a mis en nous, et que cela puisse se répandre. Vous savez, Jésus, il est venu, et il a donné la preuve, parce qu'il est bien dit, et c'est le verset clé de toute la Bible, car Dieu a tant aimé le monde, tellement aimé le monde, qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, l'unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que Dieu nous bénisse ce matin, que Dieu nous donne sa grâce. Pardonnez-moi, je suis un petit peu fatigué, mais ça passe quand même, hein, j'ai l'impression. Vous n'êtes pas endormi. Bon, eh bien écoutez, je continue à vous aimer. Que Dieu nous bénisse. On va prier quelques instants. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que il y a la prière machinale, il y a la prière automatique. Il y a la prière qui, en effet, eh bien, procède en effet d'une habitude, de l'habitude, de la vaine redite, de ce qui est en effet des litanies. Mais il y a la prière qui, là, vient d'en haut. Parce que nous savons, Seigneur, que si nous ne savons pas toujours ce qu'il faut demander dans nos prières, tu nous as envoyé le Saint-Esprit qui nous inspire pour prier comme il faut, au bon moment, pour les personnes qu'il faut, au bon endroit. Oui, Seigneur, pour les nécessiteux, Seigneur. Et nous croyons que cette prière-là, eh bien, elle est accompagnée d'une formidable prière qui nous est donnée dans l'Évangile. « Tout ce que vous demanderez en mon nom, nous dit Jésus, à mon Père, il le fera. » Merci Jésus, merci mon Sauveur bien-aimé. Amen.